Wakefield Whitelock courait de plus en plus vite, mais vint le moment où il ne put aller plus loin. Il ne savait pas pourquoi il avait tout à coup accéléré le pas. Il ne savait même pas pourquoi il courait. Lorsqu'à bout de souffle, il se jeta à plat ventre sur l'herbe nouvelle de la prairie, il oublia tout à fait avoir jamais couru et resta étendu, la joue pressée contre l'herbe tendre, le cœur battant très fort dans sa poitrine, la tête vide de toute pensée. Il n'était ni plus heureux ni plus malheureux que le vent d'avril qui passait sur son corps ou que l'herbe jeune qui frémissait de vie sous lui. Il était simplement vivant, jeune et envahi par le besoin d'un exercice violent. En regardant la multitude des brins d'herbe, il aperçut une fourmi qui avançait hâtivement. Elle portait un petit objet blanc. Il mit son doigt devant elle pour voir ce qu'elle allait faire en trouvant son chemin barré par une grande tour gênante. Les fourmis, c'est connu, sont persévérantes. Elle grimpera peut-être le long de son doigt et courra sur sa main. Non, avant d'avoir atteint son doigt, elle tourna net et partit rapidement dans une autre direction. De nouveau, il lui barra la route, mais elle ne voulait pas escalader son doigt. Il continua. La fourmi résista. Ahurie, inquiète, portant toujours son petit fardeau blanc, ni séduction ni menace ne la ferait aller sur la chair humaine. Pourtant, combien de fois les fourmis se sont-elles promenées à l'aise sur lui quand il le voulait le moins? Une était même entrée dans son oreille une fois, et l'avait presque rendu fou. Pris soudain de colère, il s'assit, saisit la fourmi entre le pouce et l'index, et la posa avec fermeté sur le dos de sa main. La fourmi laissa tomber sa charge et resta couchée sur le dos à agiter ses pattes en l'air et à se tortiller. Elle était évidemment en proie à une angoisse extrême. Il la jeta au loin, mi-dégoûté, mi-honteux. Il avait gâché la journée de cette stupide fourmi. Peut-être en mourrait-elle. Il commença vivement à la chercher. On ne voyait ni fourmis ni fardeau. Par contre, un rouge-gorge, perché sur la branche tremblante d'un cerisier sauvage, se mit à chanter éperdument. Wakefield épaula un fusil imaginaire et visa. « Pan !» cria-t-il. Mais le rouge-gorge continua sa chanson, comme s'il n'avait pas été touché. « Voyons !» se plaignit Wakefield. « Tu ne sais donc pas que tu es mort ? Les oiseaux morts ne chantent pas, je t'assure !» Le rouge-gorge s'envola du cerisier et se percha sur la plus haute branche d'un orme où il chanta plus fort que jamais pour montrer à quel point il était vivant. Wakefield se recoucha la tête sur le bras. La douce odeur humide de la terre pénétrait ses narines, son dos chauffait au soleil. Il se demandait maintenant si le gros nuage blanc qu'il avait vu venir du sud était déjà au-dessus de sa tête. Il resterait tranquille et compterait jusqu'à 100. Non, 100 c'était trop. C'était un effort mental trop soutenu pour une matinée comme celle-ci. Il compterait jusqu'à 50. Puis, il regarderait, et si le nuage était au-dessus de sa tête, il ferait... Eh bien, il ne savait pas ce qu'il ferait. Mais ce serait quelque chose d'extraordinaire.